Voilà, nous continuons dans 2 Samuel au chapitre 15, dont nous sommes arrivés dans les moments les plus impressionnants de la vie de David. Vous savez, le moment le plus impressionnant, ce n'était pas d'affronter Goliath. Hein. Vous savez, quand David allait affronter Goliath, c'est nous qui avons peur. Mais David, lui, n'avait pas peur. Hein. Il était revêtu de la robe du Saint-Esprit, du manteau du Saint-Esprit. Et quand on est revêtu de ce manteau-là, on ne voit pas les choses comme les autres, même si on a un choix quand même à faire malgré tout. Il y a quand même un choix. On peut être aussi revêtu et préférer le repos. Mais David n'avait pas la peur de nous tous quand on pense à Goliath. Ce n'était pas comme ça. Les moments les plus importants de la vie d'un serviteur de Dieu, d'un chrétien, ce n'est pas les moments où la puissance de Dieu est là, ça fait des choses. C'est plutôt des moments où son humanité est appelée à être brisée, taillée, transformée. Ça, c'est les moments les plus importants d'un chrétien. Même Jésus lui-même, quand il s'approchait de la croix, lui-même il disait, l'heure à laquelle le Fils de l'homme doit être glorifié est arrivée. Donc, le Seigneur a appelé la croix son heure de gloire, alors que pour nous tous, c'est l'heure de souffrance. Et d'ailleurs, on appelle ça la passion de Christ, tout ce temps-là. Passion qui vient d'un mot latin qui veut dire souffrance. Donc ça, c'est l'heure de la souffrance. Or lui, le Seigneur, dit que c'est l'heure de sa gloire. Pourquoi sa gloire? Parce que la gloire d'un homme, ce n'est pas ce que Dieu fait avec lui. Parce que c'est Dieu qui fait ça. La gloire d'un homme, c'est le niveau de son brisement, de sa crucifixion, de sa mort pour Dieu. Un vrai serviteur ne va jamais parler de lui en vantant tout ce que Dieu a fait avec lui. Non. Parce qu'il est conscient que c'est Dieu qui a fait ça. Un vrai serviteur est conscient que c'est Dieu qui vient d'accomplir l'exploit. Même si ce n'est pas un miracle, hein, même rien que le fait de prêcher, de parler de la part de Dieu, un vrai serviteur, il sait. Vous savez, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que l'homme avait préparé et qu'est-ce qu'il a dit réellement. Un vrai serviteur, quand il rentre chez lui et il se rappelle un peu de ce qu'il a dit, il reconnaît que ce n'est pas lui qui a agi, c'est Dieu qui a agi. Même dans les petites choses. Mais le grand moment d'un enfant de Dieu, c'est le moment où il se laisse crucifier par Dieu. C'est ça son moment de gloire, spirituellement parlant. Et que David ait vaincu Goliath, c'est un grand moment de gloire pour Dieu, pour les enfants de Dieu, pour lui. Mais ce n'est pas grand au niveau de tout ce qu'on est en train de lire maintenant, à commencer la partie où on vient de dire à David, « David, tu as péché. » Et David reconnaît qu'il a péché. Donc le moment de gloire de David commence en ce moment-là. Tu as péché. Il reconnaît que tu as péché. Quand on vient dire à David, ce n'est pas toi qui vas construire le temple, c'est Salomon. David accepte ça sans problème. Le moment de David de gloire commence au moment où on vient lui dire, toi tu ne peux pas faire le temple, tu es rempli de péchés. Donc, tu as plutôt eu beaucoup de sang dans tes mains. Et ça continue finalement jusqu'à ce qu'on lui dise que son fils a pris le pouvoir. Et le moment de gloire de David commence là. Parce qu'avant, c'était des moments de gloire liés aux manifestations de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui se manifestait. La gloire des apôtres, ce n'est pas lorsque à la Pentecôte, la gloire des apôtres. La gloire des apôtres, c'est quand ils ont été fouettés au nom de Jésus, on nous dit qu'ils étaient contents d'avoir été fouettés à cause de Jésus. C'est ça leur gloire. La gloire d'un serviteur de Dieu, c'est à quel niveau il arrive-t-il à se laisser marcher dessus pour le nom du Seigneur. C'est ça la gloire d'un enfant de Dieu. C'est ça la gloire d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a accompli comme chant, comme prédication. Tout ça, c'est la puissance de Dieu qui accomplit tout cela. Mais on a quand même une part. Cette part, c'est de dire, bon, que ta volonté soit faite à Gethsemane. Ça, c'est la gloire de Jésus. Que ta volonté soit faite. Et là, David dit, que la volonté de Dieu soit faite. Il préfère fuir son fils plutôt que d'affronter son fils, par intérêt aussi pour la nation, parce que s'il lançait une guerre civile, ça allait détruire Israël. Donc les frères allaient se battre contre des frères et on va éliminer la nation. David préfère la fuite. Intérêt supérieur de la nation, David avait ça. Et quand Dieu dit de quelqu'un, c'est l'homme selon mon cœur, il faut faire attention. Quand Dieu dit, quand Dieu établit quelqu'un, il sait pourquoi il l'établit. Même je parle, quand je parle de quelqu'un, c'est de tout le monde. Hein. Même dans le monde, même les païens. Quand vous voyez un païen président de la République, ne le sous-estimez pas. Même s'il ne sait pas parler, même si en apparence, il ne sait rien faire, mais ce n'est que l'apparence, parce qu'il ne peut pas arriver là-bas par apparence. C'est la réalité qui l'a fait arriver là-bas. Donc il ne faut pas sous-estimer. On a vu ça avec le débat Sarkozy-Hollande. Tout le monde avait prédit que Hollande serait massacré lors du débat, parce que Sarkozy, c'est un bon débatteur. Mais bien aimé, quand tu as été 10 ans secrétaire général du Parti socialiste, ce n'est pas n'importe qui va être 10 ans secrétaire général d'un parti comme le Parti socialiste. Donc les gens qui avaient prédit ça ont juste regardé un adversaire, ils n'ont pas regardé les deux. Ils dans leur tête, ils se disent, mais il paraît comme, débonnaire, jovial, comme on dit, un petit gros, quoi. Voilà, mais il faut savoir que cet homme-là a été 10 ans, il a dirigé des gens très qualifiés et on a vu le contraire. Moi, je n'ai pas vu le débat, mais les gens qui ont regardé, c'était le contraire qui s'était passé. C'est lui qui avait maîtrisé la situation. Parce que voilà, quand quelqu'un a un positionnement, il ne faut jamais sous-estimer la personne. Et puis après, il peut y avoir toujours des combats qu'il peut perdre, mais il ne faut pas croire qu'une personne peut être président comme ça, peut être ministre comme ça, et tout en sachant rien du tout. Non. Il y a des choses qu'il sait. Peut-être qu'il n'est pas au bon poste, mais il y a des choses qu'il sait. C'est quelqu'un qui ne vient pas d'un arbre, mais c'est quelqu'un qui a été construit. Et là, nous voyons Dieu lui-même dire l'homme selon mon cœur. Et toute cette partie-là va contribuer à démontrer que David, c'était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, il y a un roi qui s'appelle Hérode. Lui, il tuait carrément tous ses enfants. Parce qu'il ne voulait pas qu'il prenne sa place. Mais David, on lui dit, ce n'est pas toi qui vas construire, c'est ton enfant. Ce n'est pas grave. C'est mon fils, c'est moi-même. Pas de problème, pas de jalousie. Voilà. Tu as péché? Oui, j'ai péché, je reconnais. Que Dieu me pardonne. Ton fils mourra. Bon, il s'est parfumé. Il dit, mais ton fils est mort, tu te parfumes. Oui, mais vous voulez que je fasse quoi? Dieu a décidé ainsi, j'accepte. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, qui se manifeste? Voilà. Nous continuons, nous arrivons. Donc, David est en fuite. On était arrivé à la belle phrase d'Ittaï au verset 21, 2 Rois 15, 21. Ittaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Là aussi sera ton serviteur. De telles dispositions de fidélité, aujourd'hui, c'est très très rare. Les gens aujourd'hui sont avec Dieu que dans les bénédictions. Lorsque vient le temps d'être quelqu'un de Dieu dans les difficultés, on ne les voit plus. Il ne faut... Maintenant, beaucoup continuent à se dire chrétiens, mais ils ne font que se plaindre. En ne faisant que se plaindre, en quelque sorte, ils ne sont pas avec Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que je suis avec Dieu, mais je me plains tout le temps de lui. Non, beaucoup aujourd'hui ne vantent Dieu, ne louent Dieu que lorsque tout marche, humainement parlant. Je rajoute humainement parlant, parce que parfois, les choses peuvent sembler marcher humainement parlant, alors que Dieu n'est pas dedans. Lorsque tout marche humainement parlant, ils louent Dieu, ils chantent, ils font des témoignages. Mais lorsque c'est difficile, on les voit tout le temps se plaindre et s'éloigner de Dieu. Mais ils taillent. Vis-à-vis de David, David, un homme qui est en fuite, il taille un étranger. Il pouvait dire, ben, tiens, bon, moi, ce qui est étranger, c'est leur problème entre juifs. Ils vont s'entretuer. Moi, je reste auprès de du côté le plus fort. C'est le côté d'Absalom. Mais Ittaï, ce n'était pas un étranger simple. C'était un étranger qui avait compris les choses de Dieu. Il dit, l'Éternel est vivant. Et mon roi est vivant, c'est-à-dire David. Il dit, mais David, tu es vivant. Et Dieu est vivant. Je sais que tu es de Dieu. Je ne peux pas me le cacher. Vous savez, beaucoup de gens savent où se trouve la vérité. Mais c'est pour des intérêts humains qu'ils choisissent le mensonge. Rare dans l'humanité sont les vrais fils du diable, c'est-à-dire des gens qui choisissent vraiment, qui n'aiment que le mal, qui sont vraiment des serviteurs du diable. Ils ne sont pas beaucoup. La plupart, c'est des gens, tout le monde voit plus ou moins que le bon côté, c'est le côté de Dieu. Les gens du diable, il y en a qui sont tellement envoûtés qu'ils ne voient plus ça, qui pensent que vraiment ils sont dans le bon côté. Mais ils sont très peu nombreux, très très peu nombreux à être dans pareille ignorance. En général, les gens savent bien que celui-ci, c'est la vérité, celui-là, c'est la fausseté. Mais moi, j'ai besoin d'argent, j'ai choisi la fausseté. En réalité, tout le monde sait où se trouve la vérité. En réalité, c'est pourquoi Romains 1, 18 le dit. Hein? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute ruse d'hommes, des hommes qui cachent la vérité. Ils cachent la vérité, ils connaissent, qui retiennent captif la vérité. La plupart des gens connaissent où se trouve la vérité, mais pour des intérêts personnels, ils préfèrent le mensonge. Et Ittaï a dit non, 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 non. Je préfère mourir dans la vérité plutôt que vivre dans la fausseté. Je sais que auprès de David se trouve Dieu, se trouve la vérité. Voilà mon choix. Quel choix courageux, bien-aimé. Il faut atteindre ce niveau-là. Dire aux gens qui se moquent de nous pour dire « Mais tu es pauvre, mais tu as fait un accident, mais tu es ceci, tu es en retard dans tel domaine. » Oui, dans ce retard-là, dans cet accident, moi, je reconnais que l'Éternel est le véritable Dieu. C'est de tels adorateurs que le Seigneur a besoin. Et les apôtres l'ont démontré, ils ont été fouettés. On dit qu'ils se sont réjouis d'avoir été fouettés au nom de Jésus. Les amis de Daniel l'ont démontré. Le roi leur a dit, mais vous ne savez pas que vous, je peux vous faire brûler. Ils ont dit, mais nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Notre Dieu nous délivrera. Mais même s'il ne nous délivre pas, sache que nous n'allons pas nous prosterner devant ton idole. C'est de tels adorateurs que Dieu cherche. Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'on est en train de créer? Des adorateurs du succès, de la réussite et de la prospérité humaine. C'est des gens qui vont célébrer Dieu pour la prospérité et la bénédiction qu'ils attendent de lui. Mais ils veulent, comme a dit quelqu'un, ils veulent de ce que Dieu donne, mais ils ne veulent pas de Dieu. Non, nous on veut de Dieu lui-même. Et c'est ce que Pierre avait dit à Jésus, « Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous voulons de toi, Seigneur. C'est toi que nous préférons. » Et Ittaï dit à David, « Là où tu seras, » voilà la fameuse phrase qu'on trouve dans Jean 12, le Seigneur en parle, il dit, « Là où je suis, c'est là que se trouvera mon serviteur. » Voilà. Que ce soit à la croix, que ce soit la résurrection, que ce soit pendant les miracles, que ce soit pendant comme un jury, mon serviteur est là. Voilà, nous devons être là où le Seigneur se trouve. Vous savez, souvent on dit, ah, mais le Seigneur ne voit pas mes situations. À cause de ma situation, les païens se moquent de Dieu. Mais si le Seigneur t'a mis en position qu'on se moque de lui à cause de ta pauvreté, à cause de ton échec, mais accepte, parce que c'est là où se trouve le Seigneur. Parce qu'entre toi et le Seigneur, qui est humilié le plus? C'est le Seigneur. Accepte cette position. Beaucoup disent, c'est pas normal. Comment Dieu peut accepter que maintenant les gens vont parler mal? Je n'arrive pas à rembourser mes dettes. Je n'arrive pas à faire ceci. Les gens, oui, les gens vont dire, mais mes enfants meurent. Mais comment ton Dieu, où est-il? Si le Seigneur a choisi que dans sa stratégie, tu es dans la, au poste d'humiliation, accepte ce poste-là avec joie. Voilà les vrais adorateurs que Dieu cherche. Moi, ce qui me fait toujours mal, à chaque fois que je découvre quelqu'un de l'Ancien Testament qui est meilleur que les chrétiens, je peux vous dire que ça me mine, ça me détruit, ça me fait du mal. Quand j'écoute la phrase d'Itaï, je dis, mais c'est ce genre de phrase que notre Dieu cherche de la part de ceux qui ont compris qui est Jésus, qui ont compris l'œuvre de la croix. C'est ce genre de phrase. Je relis cette phrase encore. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Amen. Verset 22, David dit alors à Ittai, va, passe, et Ittai de Gat passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. On nous dit que tout le peuple était en larmes. On poussait des grands cris. Vous savez, c'est beau de voir de telles scènes où, alors que tu es dans une position d'échec, les gens manifestent qu'ils t'aiment. Ils reconnaissent que tu es toi le véritable roi. Pourquoi le peuple pleurait? Parce qu'ils savaient bien que c'était David, le vrai homme de Dieu. Ils étaient dérangés. On poussait des grands cris. Vous savez, ce qui est encore exceptionnel concernant David, c'est le côté laisser les gens choisir librement. Vous allez reconnaître aussi un vrai serviteur quand il laisse les gens choisir librement. Ça, c'est un élément très important. On ne sera pas toujours ensemble, bien-aimés. Un jour, vous irez ailleurs. Un jour, vous rencontrerez aussi des gens en difficulté avec un prétendu homme de Dieu. Et vous pouvez analyser qui il est à partir de certains critères que je donne régulièrement dans nos interventions. Un vrai serviteur de Dieu ne force jamais les gens à le suivre. Il fait confiance que Dieu touchera les cœurs. David, il dit à Ittai, Ittai, pourquoi tu veux me suivre? Tu prends des risques pour ta famille. Pourquoi tu veux me suivre? Reste ici. Absalom ne te fera rien du tout comme tu es un étranger. C'est sûr qu'Absalom réglera le compte de certains Israélites, mais toi, tu es un étranger, il ne te fera rien. Reste là. C'est Ittai lui-même qui dit, non, c'est moi qui veux aller avec toi. Bon, d'accord, vas-y. Mais quand vous êtes dans une assemblée où on fait voir que non, bon, si tu n'es pas dans l'option que le pasteur a prise, donc tu es méchant, tu es mauvais, manipulation indirecte, il faut comprendre que il y a un problème. Dieu ne force jamais l'appel des gens. Il appelle, mais il ne force pas. Il ne force pas. Comme j'ai reçu le coup de fil d'un ami qui m'a dit que 4 jours sur 7, 4 nuits plutôt sur 7, il passe ça à l'église. Vous avez deux parents qui font 4 nuits sur 7 à l'église. Tout ça pour que l'église gonfle, qu'il y ait des miracles. Moi, je dis, mais si Dieu... Et vous savez, et puis le matin, ils vont au travail, ce n'est pas des chômeurs. Hein. Donc, la prière finit à 4 heures du matin. Ils rentrent, après, ils vont au travail. Après, quand ils finissent le travail, ils vont un peu à la maison, ils vont à l'église, la prière commence. Quand je vous dis 4 nuits sur 7, c'est 4 nuits toute l'année, ce n'est pas... Ce n'est pas un mois de mars ou je ne sais pas quoi. Et il me dit d'ailleurs, cette semaine, on avait une retraite d'une semaine et le mois prochain, on a une retraite d'un mois. Je dis, mais vraiment, si Dieu, c'est difficile comme ça, pourquoi vaut mieux changer de Dieu, hein? On n'encourage pas la paresse. Hein? On n'encourage pas la paresse. On encourage la prière. Mais on refuse de vouloir avoir des techniques pour remplir l'église ou pour voir la gloire de Dieu. Il n'y a pas de technique. À la Pentecôte, ils n'ont pas fait 4 nuits sur 7. Non. Pour que la puissance du Saint-Esprit descende. La dame qui avait été guérie de perte de sang n'avait pas fait ce genre de choses. Voilà. C'est tout simplement, c'est la logique qu'on retrouve en Afrique. C'est l'activité plus que la vérité. En Afrique, quand même quelqu'un est voleur, mais s'il peut prier pendant 5 heures du temps les genoux, à genoux, vous allez entendre sa bonne réputation. Oh, ce frère-là, il peut prier pendant 5 heures du temps à genoux. Mais c'est un voleur, hein? Mais le fait qu'il fait 5 heures du temps à genoux, vous dites, oh, ce frère-là, quand il commence la prière, le mur bouge. Mais c'est ce qu'on va vous dire. Donc, c'est l'activité qui est privilégiée. Et non la vérité. Et non la relation avec Dieu. Le fait que tu sois actif, c'est ça qui compte. Ce n'est pas ta relation avec Dieu qui compte, mais c'est le fait que tu travailles, que tu sois actif. Et les gens sont enfermés dans des bêtises comme ça. Nous aussi, quand on était dans la région parisienne, le samedi, on dormait à l'église, tout ça pour qu'on voit la gloire le lendemain. Mais aujourd'hui, l'endroit où on faisait tout ça est fermé. Donc la gloire a disparu. Tout ça, c'est des manipulations humaines. Et le pasteur va vous amener ça de sorte que celui qui ne fait pas ça, il se considère comme un faux chrétien. C'est pas bon. Le Seigneur ne force jamais. Voilà. Il ne force pas. Celui qui est du Seigneur, il va être là où le Seigneur est. C'est ce qu'il a dit. Il dit à David... Là où toi tu es, moi je suis. Si c'est pour mourir, je mourrai. Un point, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de forcing. Et David ne force pas. Hein. Vous avez vu, hein. Il taille déjà, David n'a pas forcé. Mais le peuple est en train de crier, de pleurer. Il suffisait que David dise, suivez-moi. Ils allaient suivre. Mais David ne préfère pas donner de telles instructions. Il ne préfère pas. Il préfère lui fuir et que Dieu conduise ceux qui veulent partir avec lui. Mais ce n'est pas à lui de dire au peuple, suivez-moi. Non. Ça, c'est un vrai homme de Dieu. Verset 24. Tsadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Amen. Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville. Avec Ahimatz, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiathar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi, Tsadok et Abiathar reporteraient l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. Encore un exploit de David. Alors, est-ce que vous vous souvenez que l'arche symbolisait la présence de Dieu et que pendant les guerres, qu'est-ce qui se passait pendant les guerres d'Israël, même du temps de Moïse? C'est que quand il y avait la guerre, on avait l'habitude de brandir l'arche devant et de faire la guerre. Et d'où le verset qu'on a l'habitude de citer en intercession, Nombre 10, 35, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis se dispersent. » L'arche était devant. Donc l'arche était utilisée comme un moyen aussi pour terroriser l'ennemi et vaincre, attirer la gloire de Dieu. Mais David dit à Tsadok, le sacrificateur, il dit « Ramenez l'arche à Jérusalem. » Au lieu que lui garde ça pour que ça soit sa puissance, puisque là où se trouve l'arche, c'est là où se trouve Dieu. Donc, même aux yeux du peuple, c'est le roi qui a l'arche qu'ils vont suivre. Mais David préfère être honnête. L'arche, ce n'était pas prévu pour que lui se promène avec ça, c'est pour que ça soit dans le temple du Seigneur. Mais vous savez, quand vous avez des collaborateurs, les gens se disent « Ah, mais on est en train de fuir, prenons l'arche en même temps, parce qu'on ne peut pas laisser l'arche. La richesse de tout Israël, c'était l'arche. On ne va pas laisser l'arche entre les mains d'Absalom. On prend l'arche, on s'en va avec. On va avec. » Mais David dit non. L'arche, ce n'est pas pour rester chez moi, mais c'est dans la maison de l'Éternel, à Jérusalem. Ramenez l'arche là-bas. Bien-aimé, de tels actes démontrent clairement que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ce que beaucoup à sa place auraient dit, bon, c'est l'arche qui montre la légitimité. Qui est avec Dieu? Moi, je garde l'arche. Comme ça, j'ai la légitimité. David était déjà spirituel avant le temps. Il savait que qui donne la légitimité, ce n'est pas un objet, ce n'est pas l'arche. C'est Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui donne la légitimité. Il dit, s'il m'est favorable, il le dit. Verset 25, si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera. Je n'ai pas besoin de fuir avec l'arche. Ce n'est pas moi qui vais prendre Dieu en otage. C'est Dieu qui va me prendre moi en otage. Je n'ai pas besoin de fuir avec l'arche en disant, bon, non, moi je m'en vais si vraiment Dieu veut que je gère, je reverrai l'arche du Seigneur. Je reviendrai. Mais l'arche, moi je ne peux pas prendre Dieu en otage. Que l'arche qui symbolise la présence divine reste là où c'était prévu, dans son tabernacle à Jérusalem. Et lui, il est parti. Et il dit à Tsadok et à Abiathar, votre service est auprès de l'arche. Retournez avec l'arche à Jérusalem, servez l'Éternel là-bas. J'attendrai de vos nouvelles de là où je serai. Et puis, verset 30, David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. Voilà, il montait en pleurant. Encore une grande humilité de la part de David. Lui qui était roi, il pleure devant tout le monde parce que la situation était celle-là. C'était une situation difficile. Il n'a pas voulu jouer au roi. Il a pleuré parce que ça l'a dépassé et pleuré. On ne sait pas qu'est-ce qu'il pleurait réellement. Moi, tel que je pense le connaître, je pense qu'il pleurait plus le fait que ce soit avec son fils qui ait eu problème, quoi. Voilà. Et il pleurait en partant. Il pleurait le sort d'Israël. Qu'est-ce que ça va à venir? Il pleurait aussi de souffrir. Tout était ensemble et David pleure. On n'entend de lui aucune contestation par rapport à Dieu. Il a dit précédemment, mais s'il dit je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Voilà, David dit, je préfère. Il est arrivé au niveau où il préfère le jugement de Dieu sur sa vie que s'inventer son propre salut. Alors, disons-nous bien-aimés, comme David, s'il faut que je sois, j'ai un problème qui fasse que je souffre, mais je suis sous contrôle de Dieu. Même si peut-être que c'est parce que j'ai péché autrefois, je préfère le jugement de Dieu sur ma vie plutôt qu'un faux salut avec le diable. Vaut mieux que Dieu me juge et me punisse plutôt que mon péché soit caché et que je semble prospérer aux yeux des humains. David en est arrivé à ce point-là. Vaut mieux que Dieu me punisse. Je préfère la punition de Dieu plutôt que à l'hypocrisie et être dans une forme de gloire apparente aux yeux des hommes. Cet homme, c'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Et verset 31, on vient dire à David, Ahithophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Ahithophel. Voilà, donc là, on vient dire à David, Ahithophel est avec Absalom. Et parmi les conjurés, et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Ahithophel. On va savoir pourquoi par la suite. On va nous expliquer en lisant la suite comment, pourquoi Dieu, David dit, réduit en ayant le conseil d'Ahithophel. Verset 32. Lorsque David fut arrivé au sommet où il adora l'Éternel, voilà quelque chose d'exceptionnel, il arrive au sommet, il adore l'Éternel dans cette souffrance-là. Il adore Dieu. Ça, c'est les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Voici Hushaï, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Ahithophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tsadok et Abiathar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiathar. Et comme ils ont là, auprès de leurs deux fils, Ahimaaz, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiathar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. » Hushaï, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Donc, entre-temps, Absalom était aussi en déplacement d'Hébron pour arriver, pour prendre le pouvoir à Jérusalem. Alors, je relève encore une autre chose qu'on dit que David dit, il est dit qu'au sommet, il adora l'Éternel alors qu'il est en fuite, alors qu'il est dans la souffrance, alors qu'il est dans le malheur, il adore l'Éternel. Vous savez pourquoi nous devons adorer Dieu, quelles que soient les conditions? Parce que Dieu est immuable, il ne change pas, il est constant. Si tu adores Dieu parce que tu es dans les bénédictions et que tu ne l'adores pas quand tu es dans le malheur, ça voudrait dire que Dieu aussi s'est rapetissé, il est devenu petit pendant ton malheur. Oh, lui n'a pas changé. C'est toi qui es dans les malheurs, c'est toi qui souffres, mais lui, il est toujours tout puissant, toujours glorieux. C'est pourquoi l'adoration vis-à-vis de Dieu ne doit pas dépendre des situations vécues, puisque lui ne change pas. Lui, il est imperturbable. Il y a un verset qui dit que Dieu était dans son trône pendant sur son trône pendant le déluge. Pendant que les hommes criaient, il pleuvait, toute la terre était détruite, lui, il était assis sur son trône, comme d'habitude. Il ne bouge pas. Donc, faire dépendre ton adoration de tes succès ou de tes échecs, c'est vouloir faire bouger Dieu. Donc, quand tu es dans le succès, il est grand. Quand tu es dans l'échec, il est petit. Et là, tu commets un péché. Ce n'est pas normal. L'adoration vis-à-vis du Seigneur doit rester constante. Maintenant, on est des humains. On peut avoir des moments difficiles où pour adorer, c'est difficile. Mais on dit au Seigneur, je me repens. Je te demande pardon que ma situation m'empêche de t'adorer. Relève-moi. Voilà, on lui dit ça clairement. C'est pas normal que ma situation m'empêche de t'adorer parce que toi tu es immuable, tu ne changes pas. Mon adoration doit demeurer constante autant que toi-même tu es constant. Et on lui dit, Seigneur, pardonne-moi, relève-moi aide-moi à sortir l'adoration dans ces conditions de souffrance, comme le frère Paul avec Silas en prison. Ils ont loué l'Éternel. Voilà. Parce que Dieu ne change pas que je sois en prison, que je sois dans un palais royal. C'est le même Dieu. Et donc, on ne peut pas le louer en fonction de nos situations. On doit le louer puisque nous respirons. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel.
Par rapport à ce...
Est-ce que c'est allumé?
Oui, mais c'est rouge. Par rapport à ce verset de justement où on dit Dieu était sur son trône quand il y a eu le déluge, il y a une question qui m'a été posée une fois, c'est que Dieu est insensible parce que devant la souffrance des hommes, les gens étaient en train de mourir, c'était le désordre sur la terre et Dieu, lui, il était sur son trône et il était insensible en gros. Et j'ai pas su trop répondre en fait.
Bien sûr que c'est faux parce que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son fils unique. Donc c'est qu'il est sensible à la souffrance au point de donner son fils unique. Dieu est amour plus que tous les hommes réunis. Il a de l'amour plus que tous les hommes réunis. Mais tout simplement, il est Dieu. Ça veut dire que même souffrant, il garde son calme. Contrairement à nous, qui, lorsque nous souffrons, nous perdons le calme. Lui, en souffrant, il garde son calme. Je connais un frère qui avait vu Jésus en vision à la croix. Il était content. Jésus à la croix, il était content. Voilà. Quand il a vu à la croix, en vision, je pense que pour si je raconte une vision de quelqu'un, c'est que je pense que c'est une vraie vision. Le frère, c'était un jeune converti. Il m'a dit, j'ai vu le Seigneur. Mais lui, il était content, crucifié. Donc, dans sa souffrance, mais, et aussi c'est un verset. Donc, quand j'appuie souvent les visions, c'est parce qu'il y a des versets qui correspondent à ces visions. Dans Hébreux 12, c'est dit que Jésus-Christ a méprisé l'ignominie devant la joie de nous voir sauvés. Devant cette joie-là, il a accepté de souffrir. Donc, quand il était crucifié, le sang a coulé, notre salut était gagné. Il souffrait, sachant que notre salut est obtenu. Vous savez, c'est comme si à la 94e minute, vous marquez un but et vous vous cassez la jambe en même temps. Donc, on vous amène sur une civière, mais vous êtes heureux parce que c'est vrai que le match est fini. Donc, tu es sur la civière, mais heureux. La jambe est cassée, mais tu fais au revoir. Tu sais que ton but a arrêté, donc a qualifié ton équipe, a donné la coupe à ton équipe. On verra pour la jambe après, mais l'objectif est atteint. Voilà, donc c'est ça. Il est dans la souffrance, mais il est heureux. C'est la capacité que Dieu donne. Oui.
Oui, pasteur, je voulais juste savoir, est-ce que, parce que les mardis passés, on a parlé des manipulations. Bon, aujourd'hui, quand vous lisez tout à l'heure là, je vois ici David qui demande à Ushai d'être à sa charge, mais au contraire, il va, n'est-ce pas, l'aider à anéantir les conseils de Achitophel. Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas une manipulation? Demander quelque chose à contrepartie, faire ceci pour moi.
Ah non, 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 il dit à Ushai, si tu restes avec moi, tu seras une charge pour moi. Vaut mieux aller dans la ville, tu seras beaucoup plus utile pour moi. Parce que Ushai vient en tant qu'ami, il dit, je reste avec toi. Il dit, mais si tu restes avec moi, on ne gagne rien. On gagnera plus si tu vas dans la ville détruire les conseils d'Achitophel. Voilà, c'est dans ce sens-là.
Merci.
Oui, question.
Je reviens sur ce que sur cette question, mais il lui dit en fait de mentir parce qu'il lui dit j'ai servi ton père, mais maintenant je viens te servir toi. C'est, il l'engage à mentir.
Là, on est dans la stratégie de guerre.
Mm-hmm. Il y a des stratégies où on peut mentir.
Non, Nous ne sommes pas dans la même époque où nous occupons des postes de roi selon Dieu, donc c'est-à-dire des rois établis par Dieu. Dans le fonctionnement de Dieu, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce fonctionnement-là. Nous n'avons pas besoin de faire ce que David est en train de dire. Nous sommes dans la politique. Là, on est dans la politique. David est un politicien en même temps. Nous sommes dans la politique. Il demande de détruire les conseils de l'autre. Voilà. Mais ce n'est pas... nous ne sommes pas dans la même configuration. Donc, on ne peut pas, considérer ça comme un exemple à suivre mot à mot, mais comprenons tout simplement ce que nous pouvons tirer de ça, c'est que ça va être une guerre de sagesse, une guerre de parole, une guerre de sagesse. Voilà, mais on ne peut pas se reposer sur ça pour dire, tiens, on peut aussi mentir. Non, nous, on ne peut pas mentir, on ne peut pas le faire.
Non, mais il peut y avoir des situations ou pas.
Personnellement, je préfère dire, c'est Dieu qui décidera... quand ces situations viennent, parce que certains disent, mais oui, mais quand on tue les gens, on te dit, est-ce que tu caches les enfants? Si tu dis oui, on les prend, on les tue. Si tu dis non, voilà. Moi, je dis que ce genre de choses, c'est entre l'homme et Dieu et son Dieu. Moi, en tant qu'humain, je ne peux pas me prononcer. Moi, en tant qu'humain, tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne doit pas mentir. Voilà. Maintenant, quand arrivent ces choses-là, que chacun... écoute le Saint-Esprit, là, écoute comment il sera conduit en ce moment-là. Il y en a qui ont dit, par exemple, non, ils ne sont pas là, alors qu'ils cachaient les Juifs. Ils ont considéré qu'ils ne devaient pas céder au diktat des forces des ténèbres. Voilà. Ils considèrent ça pas comme mensonge, ils considèrent ça comme une résistance. Et il y en a qui ont dit, oui, ils sont là, en dessous de la table. En réalité, ils étaient aussi en dessous de la table, mais dans une cave en dessous. Mais les Allemands, ils ont regardé en dessous de la table, mais il n'y a personne, ils ont dit, vous vous moquez de nous. Mais ils ont dit en dessous de la table, mais c'était vraiment en dessous de la table. Donc, ils n'ont pas voulu mentir jusqu'au bout. Ils n'ont pas voulu dire, voilà, ils ne sont pas là. Donc, chacun s'arrive à des niveaux où je pense qu'en tant qu'humain, je ne peux pas intervenir. Mmh, On a un grand exemple quand le serviteur de Naaman, dit à Élisée, « Bon, moi, je vais rentrer avec le roi. Quand il va aller adorer son faux Dieu, je suis obligé d'être avec lui. Et quand il va se prosterner, comme c'est moi qui le soutiens, je suis obligé de me prosterner, parce qu'on ne peut pas être plus élevé que le roi. Donc, on doit se prosterner en même temps. C'est comment ? Oh, moi, dans mon cœur, c'est ton Dieu que moi, je veux adorer. Vous voulez qu'Élisée dit, va en paix. Donc Dieu comprend ta situation. Mais maintenant, moi, je ne peux pas en faire une règle. Dire aux gens, bon, tu es conseiller de François Hollande, quand il va aller dans le truc, tu vas aussi toi. Mais non, je ne peux pas dire ça. Je pense que c'est des inspirations que Dieu donne au moment venu. On ne peut pas en faire une règle. Donc moi, en tant qu'humain, je ne me mêle pas des décisions, comme on dit, ad hoc de Dieu, au moment même. Je ne me mêle pas de ça. Ça, c'est entre Dieu. C'est Dieu lui-même. Il a dit à Pierre, c'est moi qui décide ce qui est pur, ce qui est impur. Voilà. C'est moi qui ai dit. Chacun décidera. Comme moi aussi, j'ai eu à prendre des décisions, dire à quelqu'un, il n'y a pas de problème, fais ça. Voilà. Mais je ne vais pas dire c'était quoi. Mais chacun va être responsable au moment venu, s'il a l'autorité de donner une décision, il va être responsable vis-à-vis de Dieu. Voilà quoi. Mais cependant, nous devons retenir la règle et la suivante. On ne ment pas. Voilà, on ne ment pas. On ne dit pas des choses qui sont fausses. Et finalement, David envoie Hushaï détruire les conseils d'Achitophel. Alors, je tiens à faire aussi une parenthèse concernant les gens que Dieu établit. Quand Dieu établit quelqu'un, et je le dis même dans le monde, attention, même puisqu'on dit que c'est Dieu qui établit les rois, il faut faire attention. Peut-être à l'école, tu étais premier de classe, lui, il était 15e. Mais si c'est lui qui est devenu président, ne te dis pas que parce que tu étais premier de classe au lycée et que lui, il était 15e, que c'est toi qui vas lui apprendre comment faire ce travail-là. Non, 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 tu te trompes totalement. Vous vous rendez compte que Hushaï, c'était un grand conseiller. Parce qu'on voit de David. Achitophel aussi, c'était un grand conseiller. Mais vous allez voir que on dit même ailleurs, je crois que je ne sais pas si on va lire, ou bien c'est peut-être dans les chroniques. Hein. Je vais voir si on va lire. Non, non, on va le lire, on va le dire là. Hushaï, c'était un grand conseiller. Achitophel aussi un grand conseiller. À tel point qu'on disait que quand Achitophel te donnait un conseil, c'était comme si Dieu lui-même qui parlait. Mais vous allez vous rendre compte que des trois là, Hushaï, Achitophel et David, qui a été le plus fort, ça a été David. Hein? Parce que c'est David qui a donné la stratégie. Toi, Tsadok, Abiatar, rentrez là-bas. C'est vous qui allez être le relais pour me dire Hushaï, ne reste pas avec moi, rentre là-bas pour détruire le conseil d'Achitophel. Et la stratégie que David a donnée, c'est ça qui a marché. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a établi. Même s'il était 15e à l'école, mais comme Dieu l'a mis là, il va lui donner aussi les armes pour répondre à cette fonction-là. On ne peut pas se dire, ah, mais Achitophel, c'est le plus grand conseiller au monde, mais comme on dit, on veut peut voir que François Hollande ou tel président a des conseillers, sachez que lui-même, le président, il est plus fort que ses conseillers. Parce que sinon, ses conseillers devaient être là à sa place. Il a des conseillers, on n'en disconvient pas, mais lui-même, il est très fort. Souvent, on sous-estime les gens. On dit que c'est les conseillers qui l'ont trompé. C'est les conseillers qui ont trompé Sarkozy. C'est faux. Les conseillers ont parlé, mais lui-même a la capacité d'analyser et de choisir. C'est son choix. Ce n'est pas les conseillers qui trompent. Quelqu'un qui devient président, ce n'est pas les conseillers qui vont le tromper. Hein. Lui-même, il choisit. Peut-être si lui, il était conseiller, il serait un meilleur conseiller que ses propres conseillers. Mais il est arrivé que lui, il est président. Il écoute. Et c'est lui qui a cette place-là, c'est lui qui décide. Donc, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un qui a été établi dans un rôle, même si on a l'impression qu'on est plus intelligent que lui. Mais dans son rôle qu'il a là, il ne faut pas le sous-estimer. Et David était roi, et il avait un grand rôle. Il l'a démontré là, à travers cette stratégie-là que nous sommes en train de lire, il a démontré que c'est lui qui est roi. Il savait quoi faire pour sauver son peuple. Voilà, c'est lui qui est véritablement roi. Ce n'est ni Hushaï, ni Achitophel, des grands conseillers, mais qui n'ont pas su faire le bon choix à un moment donné. C'est David qui a fait le bon choix. Hushaï voulait rester avec David. David a dit non. Achitophel a préféré aller à Absalom. Ça a échoué. C'est David qui a fini par gagner parce qu'il était dans la ligne de Dieu. Et vers chapitre 16, lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici, Tsiba, serviteur de Mephibosheth, vint au devant de lui avec deux ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens. Et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Tsiba a répondu au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Tsiba, voici, tout ce qui appartient à Mephibosheth est à toi. Et Tsiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon seigneur. Voilà, ça c'est la méchanceté du serviteur de Mephibosheth, le fils de Jonathan. Il vient mentir, dire que Mephibosheth a changé de camp. Or, c'était faux. Et le roi est tombé dans ce mensonge-là et il a décrété que désormais, ce qui était à Mephibosheth revenait à Tsiba. Mais nous allons y revenir. Tsiba sera jugé par Dieu pour cela. Nous continuons au verset 5. Un des grands épisodes qui montre que David est l'homme selon le cœur de Dieu. David était arrivé jusqu'à Bahurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu as occupé le trône, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur ? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja ? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi ?» Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vœu à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. » David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Jephim et là ils se reposèrent. Voilà, quelle honte, quelle tristesse. David est en train d'essuyer les injures de Shimei, homme de sang, méchant homme. Shimei, qu'il pouvait tuer juste en claquant de doigts, en disant, allez, comme on dit aujourd'hui, en un clic. En un clic, Shimei pouvait être éliminé par les hommes vaillants de David. Il y en avait à gauche et à droite de David. Mais David ne fait pas cela. Il dit, bon, le Seigneur jugera la chose lui-même. Oui. Voilà, quel meilleur exemple de ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament. Ne résistez pas aux méchants.
Oui,
ça marche.
Oui, en fait, je ne comprends pas trop au verset 12, non, au verset 11, autant pour moi, lorsqu'il dit « Laissez-le et qu'il me maudisse si l'Éternel lui a dit de le faire ». Je pense que ce n'est pas l'Éternel qui lui a dit de maudire parce que Shimei, il a sa part de responsabilité dans le sens que même s'il reçoit quelque chose, après, il est libre ou pas de dire ce qu'il a dans le cœur.
Oui, quand David dit que c'est l'Éternel qui lui a dit, c'est l'Éternel qui autorise, c'est Dieu qui autorise. Quand on dit que Dieu permet, Dieu autorise parce que Dieu peut freiner ça.
Freiner les paroles de la personne.
Il peut freiner la personne même. Mais si Dieu ne freine pas, c'est que c'est qu'il a autorisé. Et il y a aussi une règle, vous vous souvenez du jour où Sarkozy, quelqu'un l'avait saisi et l'avait fait tomber par terre, il avait dit que si on fait ça à un roi, ça veut dire que sa royauté est finie. Donc, quelqu'un qui a le pouvoir, il est comme protégé d'une manière invisible. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'atteindre. Si on arrive à le toucher comme ça physiquement, soit, comme David vient de dire, c'est Dieu qui autorise. Parce que sinon, il ne peut pas l'injurier comme ça. Il sait qu'il a l'autorité et personne ne peut venir face à lui. Voilà. Donc si quelqu'un se permet ça, c'est Dieu qui autorise, c'est Dieu qui l'envoie en quelque sorte. David n'a pas à contredire ça parce que c'est Dieu qui a permis. Parce qu'en temps normal, avec l'autorité qu'il a, on ne peut pas s'avancer vers lui et faire tout ça. Voilà. Oui.
Ce que j'ai toujours du mal à comprendre avec Shimei, c'est que quand David passe le pouvoir à son fils, il lui rappelle, mais Shimei a été méchant avec moi, tu feras descendre, enfin tu le tueras, quoi. Et donc c'est comme si en fait il réglait ses comptes plus tard quand même, quoi.
Est-ce qu'il n'avait pas fixé une condition comme quoi Shimei ne devait pas quitter la ville?
C'est Salomon qui a fixé ça.
Voilà.
Mais c'est pas David. David lui a dit, la phrase c'est tu feras descendre ses cheveux ensanglantés.
Non, non, c'est David qui a fixé la condition.
C'est Salomon, je crois.
Et on dirait, lui, il a manqué à la condition au moment où Salomon était au pouvoir. Puisque quel rapport entre Salomon et Shimei? C'est David qui a parlé de Shimei à Salomon. Et Salomon n'a pas eu d'entretien, je crois, à faire avec Shimei lui-même. On va vérifier dans tous les
Moi,
cas.
Moi, ce que je me souviens, c'est que David lui dit une phrase qui laisse entendre qu'il le mettra à mort, mais Salomon, lui, décide de poser une condition à Shimei, qu'il viole, et finalement, il
D'accord. Mais comme il y a plusieurs personnes pour qui David a dit ça, la règle est la même pour ces personnes-là. La règle est la suivante. David veut éviter à Salomon tous ceux qui peuvent arrêter son pouvoir. Donc, il lui donne des instructions de prudence par rapport à tous ceux qui sont capables de déstabiliser son pouvoir. Mais David pouvait gérer Shimei. Mais il n'est pas sûr que Salomon puisse gérer Shimei. C'est dans ce sens-là qu'il a donné une liste de gens à éliminer parce que c'est des gens que Salomon ne pouvait pas gérer. Ils étaient beaucoup plus sages que Salomon, beaucoup plus intelligents que Salomon. Ils ne pouvaient pas les gérer. Lui, David, pouvait les gérer, pas Salomon. Voilà. C'est pourquoi il a donné le conseil d'éliminer une liste de personnes dans laquelle se trouvait aussi Shimei.
Voilà. Ma deuxième question, c'est... Pas exactement dans notre lecture, mais tu en as parlé un peu au début. Quand Dieu dit à David, tu ne bâtiras pas mon temple parce que tu as versé beaucoup de sang. Et c'est comme si c'était une souillure. Or, les guerres que David a menées...
C'était les guerres de l'Éternel.
C'est pourquoi c'est comme si Dieu l'avait approuvé et après, finalement, disait quand même que...
Dieu l'a même envoyé.
Parce que c'est Dieu qui lui donnait du succès aussi.
Oui, oui.
Mais après, Dieu lui dit que bon, comme tu as versé trop de sang, tu ne pourras pas faire mon temple. Alors,
oui, oui,
je ne comprends pas très bien.
Dieu nous montre par là qu'il n'est pas d'accord avec la violence. Même si il n'a pas eu le choix à un certain moment d'appliquer la violence, mais il n'aime pas ça. L'exemple de David est clair. Ça montre que Dieu lui-même qui a provoqué des guerres, mais il dit à la personne qui a fait ces guerres, puisque tu as fait des guerres comme ça, tu ne peux pas faire mon temple. Dans mon temple, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, ce n'est pas la violence. On a vu la même violence avec, concernant le temple par rapport aux marchands. Dieu montre qu'on ne peut pas mélanger l'adoration voilà, avec la violence, avec l'argent, avec le commerce. Non. Donc, il montre sa sévérité par rapport à la violence, par rapport à l'argent, par rapport à tout ça. Et David est un exemple frappant pour nous de Dieu. Mais tiens, c'est pas possible. Alors que c'est lui, Dieu, qui l'a envoyé. On appelle les guerres de David, il a combattu les guerres de l'Éternel. On n'a même pas dit les guerres de David, mais de l'Éternel. Mais Dieu n'aime pas la violence. C'est ça, il a voulu nous montrer ça d'une manière forte en empêchant David de construire le temple. Il n'aime pas ça. Que personne un jour ne vienne nous dire « J'ai reçu une prophétie qu'on doit prendre les armes. » Non. Dieu n'aime pas la violence. Il n'aime pas ça. Maintenant, si on apprend qu'un chrétien sortit une arme un jour, ça c'est le chrétien qui a fait ça. Mais Dieu n'aime pas la violence. Il n'aime pas ça. Voilà. Donc, David laisse Shimei injurier faire tout ce qu'il avait à faire. Et nous sautons, nous arrivons au verset 15. Nous sautons pas, nous continuons. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem et Ahithophel était avec Absalom. Lorsque Hushaï l'archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit « Vive le roi, vive le roi !» Et Absalom dit à Hushaï « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Hushaï répondit à Absalom, « C'est que je veux être à celui qu'on choisit l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël. Et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne sera-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. » Absalom dit à Achitophel, « Consultez ensemble, qu'avons-nous à faire ?» Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. C'est une technique que beaucoup de présidents, des hommes de pouvoir emploient pour finir quelqu'un. Ils prennent sa femme, ils prennent, voilà. Vous allez voir, beaucoup de présidents, ils prennent la femme, les femmes de leurs ministres. C'est pour mieux les contrôler, pour mieux les gérer. Dans le spirituel, ça a une implication. Ça a une implication. Et c'est ce qui se passe là. On dit à Absalom, si tu veux vraiment finir ton père, prends ces femmes devant tout le monde. Comme ça, il est vraiment bien fini. Les gens vont comprendre qu'il n'y a plus rien. David est fini. Voilà. Ce serait un symbole que c'est fini. Parce que si tu les laisses comme ça, c'est comme si David va revenir toujours. Donc là, ça montre qu'il est vraiment fini. Tu l'as écrasé, tu l'as piétiné en prenant ses concubines. Et bien sûr, Absalom a appliqué. Malheureusement pour lui, parce qu'en faisant cela, il se maudissait lui-même par rapport au commandement de Moïse. Et nous continuons au chapitre 17. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Et à vrai dire, c'était un très bon conseil. Comme c'est dit, c'était un homme très fort. C'était un très beau conseil. Il faut attaquer en masse. Parce que quand on va attaquer d'un coup en masse, l'autre n'est même pas préparé, ça va déstabiliser le peuple qui va fuir. Et il va rester seul, on le tue. Un très très bon conseil donné à Absalom. Et c'est ce que le diable aussi a l'habitude de faire dans nos vies. Hein. Vous savez, il y a des temps où, en un mois, tous les malheurs du monde tombent sur toi. En un mois, bam! Ça vient en masse. Et tu n'as même pas le temps de réfléchir. Tout tombe sur toi. Le but, c'est de t'écraser, de t'épouvanter. Comme il a dit, je vais l'épouvanter. On t'épouvante, on te fait peur. Donc, tu es déstabilisé, désorienté. C'est là que nous devons nous rappeler de Ésaïe combien ? Ésaïe 30, 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Toujours. Quand la tempête souffle, fais comme le roseau, penche-toi. Ne fais pas comme le baobab. Tu veux combattre la tempête, tu seras déraciné. Fais comme le roseau, tu te penches. Tu laisses la tempête souffler, passer et tu te relèves. Donc tu fais le silence, dans le calme et la confiance, la tranquillité. Ne jamais réagir du tic au tac. Quand la tempête souffle, on se calme. Il y a la solution dans le calme et la confiance. Et Achitophel donne ce conseil diabolique. Le diable a l'habitude d'utiliser ça. On envoie une attaque massive à tous les niveaux, de sorte que tu es désorienté et tu fais des bêtises. Je me souviens quand on était jeunes, par exemple dans l'école, on faisait des matchs entre écoles, et parfois ça se finissait en bagarre à la fin. Une bagarre de masse, tu ne sais pas d'où vient l'ennemi. Un ami comme ça, dans ce désordre-là, il a ramassé un petit noyau de quelque chose donc qui ne pèse même pas, parce que c'est devenu un autre sujet de moquerie toute notre vie. Donc il a reçu un coup dans la tête, il ne savait pas d'où venait l'adversaire, il a ramassé un noyau de badame, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un fruit qui est très léger. Donc il n'a même pas de poids, quoi. Il lance ça sur quelqu'un, donc, tellement il est troublé. Donc tu es désorienté, tu ne sais pas quoi faire, tu fais des bêtises. Donc il faut rester calme et observer et bien viser ton coup. Mais Satan va t'empêcher d'être calme pour réfléchir. Il va t'empêcher d'être calme pour réfléchir. Attaque massive. Comme ça, tu vas faire une bêtise en réagissant. Et là, il donne un très bon conseil à Absalom. Il faut attaquer David maintenant. Il n'est pas encore organisé. Il est en train de fuir. Le peuple n'est pas encore stabilisé. C'est le moment. 12 000 hommes. Et moi-même, je vais avec les 12 000 hommes. Lui-même, Achitophel. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce conseil qu'Absalom approuve rapidement? Ah ben c'est un bon conseil. On remarque quelque chose sur Absalom. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on remarque chez Absalom là? En approuvant ce conseil, on remarque certaines choses chez Absalom. La méchanceté par rapport à son père. Autre chose sur Absalom. En tant que prétendu roi, lisez bien le conseil d'Achitophel. Dit, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je là, c'est qui? Achitophel. Oui.
Contrairement à David, Absalom... s'occupe pas de savoir s'il va tuer des Israélites, quoi. Alors c'est bien ça qu'il va faire. David voulait protéger Israël tout le temps, même quand il était poursuivi par Saül. Il a pas combattu les hommes de Saül. Et là, Absalom, lui, bon, c'est pas grave, on va tuer David et puis tous ceux qui sont avec lui, mais c'est son peuple aussi.
Donc, oui, en fait, il va tuer David son a combattu peuple. Après la mort de Saül, mais c'était par légitime défense, puisque les autres continuent à attaquer. Oui, mais continuons.
Et oui, c'est ce que je pense que il allait tuer son propre peuple pour avoir le pouvoir, quoi. Chose que David n'a pas fait.
Donc, il est prêt à tuer son peuple pour le
et
pouvoir.
Et son père, en plus.
Surtout son père, donc c'est la méchanceté. Et il veut tuer son propre père. Vraiment, il est méchant. Mais il y a autre chose. Il se dit roi, oui.
En fait, il n'est pas prêt à gagner cette royauté en allant lui-même au combat.
Il se bat pas, un lâche. Donc c'est Achitophel qui dit, moi je vais prendre 12 000 hommes. Donc lui va être là, assis sur ton trône. Allez, vas-y. Donc on va venir. C'est un lâche. Et je peux vous dire que les chrétiens lâches, vous allez cirer nos chaussures au ciel. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui sont assis sur leur trône. Le trône de la grâce. Ils ne font rien pour Dieu. Mais on est sauvé par grâce. Ah. On a compris tout le temps. On est sauvé par grâce. On est sauvé par grâce. Ils ne font rien. Ils sont sauvés par grâce. C'est des gens qui ne seront pas assis sur le trône. Ils vont peut-être être sauvés quand même. Pas parce que c'est par grâce. Ils ont raison. Ils vont être sauvés quand même. Mais au ciel, ils vont être obligés de nous amener le gros pastèque pour que nous mangeons tranquillement. Sur un plateau. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas se battre. Ils ne veulent pas se battre. Quand on n'a pas... Il y a des combats là-bas. Ah, et toujours les prières. Lui, c'est la télévision Top Chef. Non. Quand on va lui parler, non, frère, on est sauvé par grâce. Oh, mais sauvé par grâce, mais le combat existe. Non. Il ne veut pas se battre. L'autre lui dit, je vais aller moi-même te gagner le combat. C'est bien, vas-y. Un lâche. Il ne veut pas se battre. Non, bien-aimé, on doit être prêt à se battre pour la gloire de Dieu. On doit être prêt à prier, aller faire des délivrances, aller intercéder, prêcher la parole, défendre la parole. On doit être prêt. Toujours se cacher, fuir, ah, c'est la laïcité. Non. On doit être prêt à affronter. C'est ça le véritable chrétien. tu ne seras pas roi au ciel si tu ne l'es déjà pas ici sur terre. Absalom voulait devenir roi sans se battre. Toujours par complot. Il a fait des complots. Il arrive, comme il est fils du roi, on arrive à le mettre là. Et encore, il fait des complots. Il veut que l'autre aille se battre par lui-même. Et cela a montré qu'il n'était pas un vrai roi. Aussi simple que ça. Ce n'était pas un roi dans l'âme. Ce n'était pas un vrai roi. Il était lâche. On se souvient même quand on a tué Amnon. Qui a tué Amnon? C'est un serviteur, c'est pas lui-même, quoi, pour venger sa sœur. Donc c'est quelqu'un qui refuse d'aller au combat. C'est quelqu'un qui refuse les difficultés. Et là, on le voit. Et beaucoup de chrétiens refusent les combats, refusent les difficultés. Mais non, on est sur terre, il y a la méchanceté, il y a le mal. On aura toujours des combats jusqu'à la fin. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc quand les combats viennent, on se bat dans la prière, on se bat dans la parole, on se bat dans la louange, dans l'adoration, mais on ne se laisse pas faire. On utilise les armes du Seigneur. La vérité, la parole, la prière, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, on utilise toutes ces armes pour se battre et vaincre, et on ne se laisse pas faire. Et Absalom, maintenant, laisse Achitophel, veut qu'Achitophel aille se battre pour lui. Mais en réalité, d'Achitophel et d'Absalom, finalement, à travers ce oui-là d'Absalom, qui était le véritable chef? C'est Achitophel. Donc, on peut considérer quoi? Que quand Achitophel était conseiller de David, il devait considérer que David n'était pas à sa place. C'était la place à lui, Achitophel. Vous allez toujours avoir, c'est comme la bande dessinée de Is No Good, là, donc un vizir qui veut toujours être calife à la place du calife. Donc vous allez toujours voir des gens qui penseront que la sœur là qui chante, tout le monde trouve qu'elle chante bien, moi je trouve pas. Moi, c'est parce que les gens ne m'ont pas encore entendu, hein. Oh, bien aimé, on avait des soeurs comme ça dans la région parisienne. Elle vient à l'église. On commence à critiquer nos soeurs avec qui qu'on en avait habituellement. Et la soeur là qui vient d'arriver, elle, si elle chante, vos soeurs là, vous avez trouvé que c'est du carton. D'accord. Mais comme on dit, Dieu ne dort pas. Un jour, elle entre aussi dans la chorale. On entend la personne chanter. C'était du bronze, hein. Voilà. Mais on nous a vanté la personne. Vous savez, c'est facile d'être assis là, de se vanter tout seul. Ou bien ton ancien public qui ne connaît pas grand-chose. Vous savez, quand on se retrouve à l'université, chacun vient d'un lycée où il a cartonné. Oh, lui, il était terrible dans tel lycée. Mais il faut savoir que tous ceux qui ont cartonné dans ces lycées-là, parce que nous, on était en pré-polytechnique, dont les meilleurs se retrouvaient dans la même classe. Il y aura un dernier. Hein? Ce dernier-là, lui, il était premier dans son lycée. Donc les gens là-bas qui le trouvaient extraordinaire, ils étaient petits. Mais lui, il se retrouve maintenant dans un endroit où tout le monde est caïd. Et tu te retrouves dernier. Et c'est pourquoi nous ne devons pas sous-estimer ceux qui travaillent. Tu es assis, tu juges ceux qui travaillent. Comment on va savoir ta valeur si toi-même tu ne travailles pas? Voilà. Il faut travailler et là, on verra réellement ce que ça vaut, même si déjà dans la parole de Dieu, nous ne devons pas nous comparer. Ce n'est pas bon. Et je crois que Achitophel était, comme ses conseils étaient puissants, il devait se dire, mais normalement, c'est moi qui dois être roi. Puisque le roi, c'est moi qui lui donne des conseils, c'est moi qui l'enseigne, c'est moi qui dois être roi. Donc, il en a profité. Et c'est pourquoi, dès que David a fui, lui, il en a profité rapidement. Il était dans le complot, même avant que David fuit. Parce qu'on dit qu'il était parmi les conjurés. Donc, parmi les complotistes. Donc, il était dans le complot pour faire fuir David. Il savait que lui, il allait maîtriser Absalom. C'est pourquoi, comme c'était lui le vrai chef du complot, alors, il voulait lui-même s'assurer que David est bien mort. Lui, il était conscient que son vrai ennemi, c'est David. Ce n'est ni Absalom, ni les autres, c'est David, son vrai ennemi. Il faut éliminer David. Vous voyez, même dans son conseil, il dit, le peuple va être épouvanté, le peuple va fuir, comme ça le roi va être seul, on va le tuer. Il savait, c'était un vrai serviteur du diable. Il sait quel est son vrai ennemi. Il sait que le nombre de gens qui suivent David, ce n'était pas des vrais ennemis, c'était des petits. Le vrai ennemi, c'est David. Il faut éliminer David. Si on élimine David, notre problème est fini, on va régner tranquillement. Mais tant qu'on n'aurait pas éliminé David, cet homme-là, Dieu va l'utiliser, il va venir nous enlever. Donc c'est lui qu'on doit éliminer. Il avait vraiment donné le conseil qu'il fallait. Mais David avait déjà prévu tout ça. Écoutons la suite. Verset 5. Cependant, Absalom dit, « Appelez encore Hushaï l'archien et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Hushaï vint auprès d'Absalom et Absalom lui dit, « Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle-toi. » Hushaï répondit à Absalom, « Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. » Et Hushaï dit, « Tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si dès le commencement, il en est qui tombe sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre et on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors le plus vaillant aurait-il un cœur de lion sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville et nous la traînerons au torrent, jusqu'à ce que l'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil de Hushaï, l'archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Écoutons la suite. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Voilà la puissance de Dieu. En réalité, quel était le bon conseil? C'était le conseil d'Achitophel. En parlant mal, hein? Donc, mettons-nous dans le camp des mauvais, eh bien, le bon conseil, c'était le conseil d'Achitophel. David n'est pas très préparé. Il faut l'attaquer maintenant, rapidement. Attaque éclair. Et Hushaï vient dire, mais non, cette fois-ci, Achitophel s'est trompé. Et il donne son conseil à lui. Il faut qu'on rassemble tout Israël. Quand on va rassembler tout Israël, on sera tellement nombreux qu'il ne peut pas nous résister où qu'il soit. Parce qu'aujourd'hui, si on apprend que 100 personnes ou 200 personnes de ton camp qui sont tombées, tout le monde va avoir peur. On va croire que ton père s'est réveillé dans sa force de guerre. Donc, ça va être compliqué. Vaut mieux être le plus nombreux possible pour pouvoir l'achever. Vous savez, on voit bien que Absalom et ses amis qui ont accepté ce conseil, ils marchaient vraiment dans la chair et ils ne se souviennent pas qu'autrefois Israël avait gagné des combats en petit nombre. Et ils ont préféré le conseil d'Hushaï. Pourquoi ils ont préféré le conseil d'Hushaï? Raison simple qui est donnée dans la parole. Raison pas qui sort de votre tête. Non, raison qui est donnée dans ce qu'on a lu. Pardon? Non, mais vous levez la main, vous prenez le micro. Raison simple qui est dans... Et c'est écrit la raison.
Parce que Dieu avait décidé d'anéantir le conseil. Ah, parce que David avait demandé aussi au Seigneur que son conseil.
David avait demandé à ce que le conseil d'Achitophel soit anéanti. Mais Dieu lui-même a décidé d'anéantir le conseil d'Achitophel. De sorte que quand Hushaï parlait, il parlait avec le pouvoir de Dieu. Donc le pouvoir de Dieu a fait accepter le conseil d'Hushaï. c'est le pouvoir que tu peux avoir, que je peux avoir. Si nous sommes obéissants en Dieu, tu vas dire quelque chose, c'est ce que les gens vont suivre. Parce que Dieu est derrière la chose. D'ailleurs, c'est écrit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit peut convaincre. Voilà. Il est tout puissant pour convaincre. Oui.
Oui, je suis d'accord que c'est Dieu qui a fait qu'il prenne le conseil d'Hushaï. Mais par rapport à ce qui est dit, tout à l'heure on a dit qu'Absalom était lâche. Et là, Hushaï lui dit, mais tu iras toi-même au combat.
Toi-même, avec tout le monde. Depuis Dan, l'expression de Dan à Beersheba, ça veut dire du nord au sud. Ça veut dire les 12 tribus d'Israël rassemblées. Vous allez voir ça dans la Bible souvent, de Dan à Beersheba. Dan, c'est le nord. Beersheba, c'est le sud. Donc ça veut dire que du nord au sud d'Israël, nous serons tous ensemble. Vous vous souvenez quand on a étudié Gédéon, on a parlé du fait que pour faire une guerre, il fallait réunir des gens de toutes les tribus. Et ça demandait de l'argent. Les faire venir, les faire nourrir, les faire manger. C'est pourquoi Saül était gêné que les gens commencent à partir. Chacun rentrait dans sa tribu. Il dit, oh mais non, moi je fais les sacrifices aujourd'hui parce que sinon tout le monde va rentrer, on va se retrouver en petit nombre. C'était ça les guerres d'Israël. C'était pas une guerre simple hein, pour réunir Israël. C'était 12 tribus qui devaient se réunir pour faire une masse. Et là, quand Absalom prend le pouvoir, il n'y a pas encore les 12 tribus qui sont réunies en masse. Il y a quelques tribus qui se sont jointes à lui. Maintenant, Hushaï lui dit, mais non, il faut qu'on soit encore plus nombreux que ça. De Dan à Beersheba, là, tu vas à la tête de ce groupe-là. Donc là, il compte sur tout ce nombre-là. Et le Seigneur a décidé d'anéantir les conseils d'Achitophel. Et vous savez, les vrais ennemis du Seigneur, ils connaissent le Seigneur plus ou moins. Hein. Ils connaissent le monde spirituel. Qu'est-ce qui est dit au verset 15? Hushaï dit aux sacrificateurs de Tsadok et Abiathar, Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Jonathan et Achimas se tenaient à En-Rogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Et on arrive au verset. Donc David suit le conseil, il s'enfuit. On arrive au verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Achitophel, il se suicide. Pourquoi se suicide-t-il? La raison nous est exposée, parce qu'on n'a pas suivi son conseil. Maintenant, juste parce qu'on n'a pas suivi ce conseil, ne pouvons-nous pas donner une explication un peu plus grande que ça, quoi? Oui, Mylène.
Oui, tu avais dit dans une prédication que, en fait, Achitophel savait que c'était le bon conseil et comme ils n'ont pas écouté, ils savaient bien qu'ils allaient perdre et qu'ils seraient humiliés, en fait.
Tous, parce qu'il faut comprendre qu'Achitophel, quand on étudie bien, il pensait, lui, devenir roi en quelque sorte. Tout son projet tombait, hein, parce que tout tenait sur ce conseil-là. Alors, ça nous révèle quelque chose concernant la parole. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Cette affaire-là de conseil d'Achitophel. Oui.
Que la parole est puissante.
La parole est vraiment puissante. Peu importe, qu'elle soit dans le mal ou qu'elle soit dans le mauvais, la parole est puissante. Vous vous souvenez, je vous disais que tout mouvement a besoin d'une idéologie. Vous allez voir le communisme. Mao a sorti un livre rouge du communisme. Vous allez voir que tous les gens qui ont dirigé, beaucoup d'hommes ont sorti des livres comme pour donner leur programme. Parce que rien ne peut tenir sans la parole, sans la doctrine. Même si elle est mauvaise, même si elle est bonne, on a besoin de la parole. C'est la parole qui soutient tout. Et c'est écrit dans Hébreux au chapitre 1er. Il soutient toutes choses par sa parole. De la même manière que les mauvaises choses aussi sont soutenues par la mauvaise parole. Et Achitophel savait que son conseil, c'était ça la victoire. C'était ça la puissance. Son conseil était suivi, ils avaient le pouvoir. Son conseil n'était pas suivi, ils n'avaient pas le pouvoir. Il était conscient de la puissance de la parole. Tout est une question de parole. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas se taire. Un chrétien doit être quelqu'un qui parle. Pas forcément aux gens, mais dans la prière. Et tu dois être quelqu'un qui parle. Satan, lui, ne fait que parler dans notre cerveau. Il dit beaucoup de choses. Dieu n'agit pas. Les chrétiens sont dans l'échec. Il dit beaucoup de choses. Nous devons réagir en parlant et s'il le faut, à haute voix. Le mieux, c'est à haute voix. Et beaucoup de chrétiens, ils entendent trop du diable, mais ils ne parlent pas. Et ils perdent le combat chaque jour. Nous devons parler à la prière. Dire au Seigneur, quand je dis à haute voix, donc parler, dire Seigneur. Pas penser seulement, mais dire au Seigneur. T'exprimer au Seigneur. C'est ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 43, 26. Parle toi-même. Parle toi-même. Plaidons ensemble. Plaider, ça veut dire quoi? Quand vous allez au tribunal, plaider, ça veut dire quoi? L'avocat qui se tient debout, qui commence à parler pour un cas. C'est ça, plaider. Et les chrétiens ne parlent pas. Ils méditent sur leur souffrance. Ah, je souffre de ceci. Je souffre de cela. Je m'en fais ceci. On m'a fait cela. Ah, mais ça fait longtemps. Ils ne font que cuisiner leur propre malheur. Au lieu de dire, je refuse. Dieu est tout puissant. Dieu nous a donné l'autorité. Alors, je prends telle décision. Dans ma prière, je refuse telle chose. Non, les chrétiens ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ils sont là à méditer. Ah, les choses ont changé. Hein. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Mais oui, mais... La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est un verset de la Bible. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ce que tu dis va déterminer si tu vas vivre ou bien tu vas mourir. C'est clair. C'est clair. La Bible dit par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris. Là, tu l'as médité. Ah, on m'a dit que j'avais la leucémie. Internet, le sémi, c'est quoi? Les plaquettes ont un cancer qui fait ceci. Tu deviens un médecin en train de savoir ceci. Mais au lieu de dire, oh, mais le sémi, c'est quoi? Il est dit que tout genou fléchira. Non, il nous a dit quoi? C'est pourquoi on lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais le semé, qu'est-ce que ça peut faire devant le nom de Jésus? C'est par terre au nom de Jésus. Tu loues le Seigneur. Il faut parler. Il faut parler, bien-aimé. La parole règle tout. Les gens des ténèbres le savent. Vous ne voyez pas que les gens des ténèbres, quand ils font quelque chose, il y a toujours des slogans. Quand il y a une campagne présidentielle, la France tranquille. Donc, c'est ce slogan-là qu'on lui a dit par les forces des ténèbres, tu mets telle phrase là, tu vas voir. Chacun a son slogan, c'est le combat par la parole. Je ne vais pas imiter le salut d'Hitler. Hitler, c'était son slogan. Il vient avec un salut. Quand il lève la main, tout le monde lève la main. C'était sa force. Les gens des ténèbres ont dit à Churchill, toi tu lèves deux doigts de victoire. Mais vous ne savez pas d'où ça vient tout ça. C'est des conseils des gens des ténèbres. Lui lève la main, toi tu lèves deux doigts de victoire. Qui a gagné? C'est Churchill qui a gagné. Mais ce sont des réalités. C'est parole contre parole. Tu ne peux pas être là à subir la parole de l'autre. Non. L'autre dit ceci, il t'envoie une maladie, toi tu réponds par un verset biblique. Tu dis, ça ne se passera pas comme ça. C'est Jésus qui a la solution. Voilà. C'est ça. Il faut parler, bien aimé, dans la prière. Parler dans la discussion. Même quand on a fait notre discussion, on a débattu sur notre maladie, l'orteil qui gonfle, tout ça. Mais dans cette discussion-là, tu dis, mais je me souviens qu'il ait dit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Voilà. Les médecins n'ont qu'à faire 10 ans d'études. Nous, on n'a qu'un seul verset. Le nom de Jésus a été placé au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc la maladie va reconnaître que non, vraiment Jésus-Christ est puissant. Mais tout dépend de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut dire les choses qui sont vraies. Je ne suis pas en train de prêcher ce qu'ont prêché d'autres personnes. Il faut confesser une chose, et puis ça va arriver. Non, non, non. Donc il faut dire ce qui est vrai selon la parole de Dieu, et Dieu accomplira sa parole. C'est ça qui est vrai. Et Achitophel avait compris que sa bataille était perdue. C'est pourquoi il s'est suicidé. Il savait que rien que le conseil d'Ushai avait détruit tous leurs projets, le conseil. Un seul conseil. Bien, mais rendez-vous compte. C'est le conseil d'Ushai qui a détruit tous les projets d'Absalom. Après la guerre dont on va parler, ce n'est qu'une suite. Mais c'est le conseil d'Ushai. C'est pourquoi écouter aussi les mauvais conseils, c'est dangereux. Il est dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvais conseils, c'est dangereux. Vous savez, certains mauvais conseils peuvent résister 30 ans. Tu restes dans ce schéma-là, un mauvais conseil qui dure 30 ans. Puisque c'est ta grand-mère qui était gentille qui t'avait donné ce conseil-là. Mais c'est un mauvais conseil. Ah, tu vois, les hommes, ils aiment manger. Donc, il faut faire comme ça. Mais tu suis comme ça, un conseil comme ça, mais t'as beau à faire top chef, tu n'arrives pas à prendre le type. Pourquoi ? Parce que tu as écouté le conseil d'une grand-mère. 30 ans, tu continues le même conseil, même conseil, même conseil. C'est dangereux, les mauvais conseils. Nous avons besoin de donner les bons conseils, de parler, de prêcher régulièrement. Et à force de prêcher, les bons conseils, les mauvais conseils sont détruits. À force de prêcher, les mauvaises doctrines dans les têtes des gens sont détruites. Voilà, il faut parler de la part de Dieu, il faut citer la parole de Dieu, il faut donner le conseil du Seigneur et nous-mêmes nous serons fortifiés et nous fortifierons d'autres personnes. Amen. Seigneur, merci de nous aider à saisir l'importance de la parole, l'importance de la sagesse qui vient de toi. Mais à saisir aussi l'importance que peuvent revêtir les paroles mauvaises et à ne pas les entendre, les écouter sans réagir. Aide-nous à réagir par la pensée, mais en parlant aussi, en te parlant, en parlant à notre vis-à-vis, en nous parlant à nous-mêmes. Mais il faut qu'on parle au nom de Jésus-Christ. Comme tu as dit à notre frère Esaïe, crie à plein gosier, ne te tais point. Que nous aussi, nous ne nous taisions pas, que nous parlions. Et en particulier dans la prière, régulièrement, qu'on te parle. Qu'on parle aux forces qui nous entourent pour les vaincre dans la prière, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci de nous rappeler encore ce soir que ton nom a été placé au-dessus de tout nom. De sorte qu'en ton nom, Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur.